VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. RCA, l'UPC, un groupe armé centrafricain issu de l'ex-rébellion Séléka, a assassiné en décembre 32 civils dans une localité du centre du pays. C'est ce qu'affirme ce jeudi l'Organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch. Ces exécutions sont des crimes de guerre flagrants commis par des combattants de l'UPC qui se sentent libres de tuer à volonté, accuse l'ONG humanitaire basée à New York en soulignant que le groupe en question commet des meurtres sans crainte de punition malgré la présence de la MINUSCA, la force onusienne de maintien de la paix dans le pays. Crise au Burundi, les efforts pour relancer des pourparlers de sortie de crise dans le pays semblent dans une impasse totale ce jeudi. Le gouvernement burundais refusant de discuter avec l'opposition et ouvrant même la voie à une réforme de la constitution nationale. Le médiateur régional dans cette crise, l'ex-président tanzanien Benjamin Mkapa, avait invité le gouvernement du Burundi et son opposition à venir discuter aujourd'hui à Arusha, en Tanzanie, des questions de fond qui alimentent depuis près de 2 ans la crise politique majeure dans ce pays des Grands Lacs. Karine Kaneza, porte-parole du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi, dénonce une obstruction à la paix de la part de Bujumbura.
Refuser de participer à un processus qui aurait pu être une tentative de résolution de cette crise montre l'ampleur du radicalisme du régime de Bujumbura et de son refus de participer dans tout processus pacifique de résolution de la crise. Le régime de Bujumbura reste cohérent dans les prétextes qu'il avance. Rappelons-nous quand même que c'est le même régime qui a menacé en 2015 de tirer sur 5000 hommes qui devaient être envoyés par l'Union africaine comme force de protection du citoyen burundais. C'est le même régime qui, depuis le début de la crise, a avancé des prétextes innombrables sur la participation, sur la non-participation de tel ou tel individu, de tel ou tel pays, que ce soit des pays occidentaux, que ce soit des pays de la région. Donc rien de surprenant, c'est un prétexte de plus dans la panoplie d'excuses qu'ils ont à leur disposition.
Karine Kaneza, Washington. Cette crise qui a fait plus de 500 morts et poussé plus de 300 000 Burundais à l'exil a été déclenchée par la candidature controversée du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat en avril 2015. Ce dernier a été réélu en juillet de la même année au terme d'un scrutin boycotté par l'opposition. Élection en RDC maintenant, le gouvernement congolais ne pourra pas mobiliser les 1,8 milliard de dollars exigés par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, pour les prochains scrutins. C'est le ministre d'État en charge du budget qui l'a dit mercredi à Kinshasa, mais selon Pierre Kangundia, il est toutefois possible de financer certaines élections avec moins d'argent si les politiques s'entendent sur la séquence à financer. On l'écoute au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Je ne peux pas faire du formalisme. Même si les perspectives semblent s'améliorer, sera difficile de penser que nous puissions mobiliser 1,8 milliard cette année. C'est notre souhait. Mais à ce stade, je préfère tenir le langage de sincérité. Il est difficile que nous puissions mobiliser 1,8 milliard exigé pour la tenue des élections au cours de cette année. Les perspectives ne me semblent pas pouvoir me permettre de dire que nous allons rencontrer en totalité cette exigence cette année. C'est ça la vérité. Ça va certainement énerver ceux qui aimeraient que nous ayons 1,8 milliard cette année et donc organiser les élections. J'ai dit que notre économie génère des revenus et le niveau de recettes est celui-là. Je ne vois pas comment nous allons rencontrer cette exigence avec cette réalisation. C'est impossible.
Le ministre d'État congolais en charge du budget, Pierre Kangundia. Réaction de l'opposition congolaise, un appel à la démission du gouvernement après la déclaration du ministre du budget.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, Nigeria. Le chef de l'État nigérian Muhammadu Buhari en séjour à Londres depuis près d'un mois pour des examens médicaux est en bonne santé. C'est ce qu'a affirmé ce jeudi le président du Sénat nigérian après lui avoir rendu visite. Et ce, pour tenter de dissiper des rumeurs sur la santé du numéro 1 nigérian. Le président Buhari, 74 ans, a quitté le Nigeria le 19 janvier pour un contrôle de santé à l'occasion de ses congés. Alors que son séjour était initialement prévu pour une dizaine de jours, son cabinet a annoncé le 6 février qu'il devait le prolonger sur recommandation de ses médecins. Le gouvernement a dû par la suite démentir à plusieurs reprises des rumeurs persistantes sur les réseaux sociaux et dans les médias nigérians selon lesquelles le président Buhari serait gravement malade. Afrique de l'Ouest toujours, le transport du fret burkinabé par la route via le corridor ghanéen traverse actuellement une passe difficile. Le torchon brûle entre plusieurs acteurs de ce secteur et un groupe de transporteurs indépendants accusent l'organisation des transporteurs routiers du Burkina Faso d'entraver leurs activités avec la complicité du Conseil burkinabé des chargeurs. De Ouagadougou, plus de détails avec notre correspondant sur place, Issa Napon.
La bataille fait rage entre l'organisation des transporteurs routiers du Faso OTRAF, organisation fêtière des transporteurs d'un côté, et de l'autre un groupe de contestataires constitué d'un syndicat et d'une société de transit installée au Ghana. Pour ces derniers, l'OTRAF a une mainmise insupportable sur les activités de transport du fret, notamment celui depuis le corridor ghanéen. Toute chose qui pèserait sur leurs activités, le transitaire de la société GNE Shipping, Romuald Sawadogo.
Depuis 2014, le CBC a essayé d'instituer un document qui s'appelle bon de chargement. Dès que nous sommes prêts pour entrer faire le chargement à l'intérieur du port, il faut qu'on passe par le CBC pour prendre ce document. Vous ne pouvez pas aller dans le port de Tema faire vos chargements librement tant que ce n'est pas le CBC qui prend votre fret. Donnez à l'OTRAF qui décide de ce qu'il veut faire.
Le bureau de l'OTRAF a fini par sortir du bois pour rétablir ce qu'il appelle des contre-vérités. Son président, Issoufou Maïga.
Un adage qui dit, si un menteur vous devance chez le chef, vous avez tout à fait un problème.
ASC nous a saisi. On l'a dit que nous ne percevons pas de l'argent pour des bons de chargement. Vous avez vu la copie des bons de chargement, ce ne sont pas des imprimés à valeur. Je ne force pas quelqu'un à cotiser. C'est pour ça que je vous ai dit que nos cotisations partent de 300 francs à 35 000. Donc l'assistance aussi, nous dépensons près de 1 500 000 francs par mois pour assister.
Romuald Sawadogo, responsable de la société GNE Shipping, s'insurge contre des textes qui donnent du pouvoir à l'OTRAF sur tous les chargeurs de fret. Des textes pourtant légaux, issus par l'autorité, se défend le président de l'OTRAF qui laisse entendre que les accusateurs travaillent dans l'anarchie et en dehors du quota fixé par le Burkina et le Ghana, à savoir 2/3 des fret transportés par des Burkinabés et 1/3 par des transporteurs ghanéens. Position d'ailleurs défendue par un représentant de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, UCRB, qui applaudit l'action de l'OTRAF. Tassiré Ouedraogo.
À partir de 2014-2015, vous arrivez à Ouara Inter, c'est bourré de camions ghanéens. Pendant que nos frères sont au Ghana, ils dorment sous leurs camions. Ils vont passer leur temps à aller à l'OTRAF, prendre quelques 10 000 RCG TRAF pour soigner leurs apprentis ou eux-mêmes, et n'ont même pas à manger.
Plus de 80% du fret à destination du Burkina Faso transite par la route, ce qui en fait un domaine qui suscite des appétits. Une bataille pour le contrôle du fret qui promet d'autres développements. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Agriculture africaine, l'invasion d'une chenille légionnaire vorace venue d'Amérique endommage les cultures céréalières de plusieurs pays africains et fait craindre des pénuries alimentaires. D'où une réunion d'urgence de 3 jours sous l'égide de l'ONU à Harare, au Zimbabwe, qui s'est penchée sur ce fléau. La conférence s'est terminée hier. Le docteur Mark Kennis, spécialiste des espèces invasives au Centre international pour l'agriculture et les biosciences, propose quelques solutions.
On peut développer des méthodes de lutte intégrée qui soient le mieux adaptées possible aux conditions rurales en Afrique. Ce que je veux dire principalement dans le développement de méthodes de lutte intégrée, c'est donc d'essayer d'éviter le plus possible l'utilisation des pesticides, parce que là, malgré tout, avec les pesticides, normalement, ça marche. Mais on ne va pas conseiller l'utilisation abusive de pesticides. Il y a toujours des méthodes intégrées en mélangeant donc une utilisation très modérée de pesticides avec des biopesticides, avec des méthodes de monitoring, des systèmes, par exemple, de mélange de cultures et tout ça pour pouvoir lutter donc plus efficacement et de façon plus écologique contre cet insecte.
Le docteur Mark Kennis, entomologiste au Centre international pour l'agriculture et les biosciences, il était joint à Delémont en Suisse. Et pour terminer, actualité américaine, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson est à Bonn en Allemagne aujourd'hui pour son premier voyage à l'étranger en tant que chef de la diplomatie américaine. À son programme des consultations avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.